Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du Monde aujourd'hui de ce jeudi 19 janvier. Avec vous, Abdourahmane Dia, pour vous présenter donc cette édition à la une ce soir. Adama Barrow, investi président de la Gambie. La cérémonie s'est déroulée à l'ambassade gambienne à Dakar. Le Conseil de sécurité, à l'unanimité, a donné son feu vert pour une intervention des forces de la CEDEAO. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en visite à Gao, théâtre d'un violent attentat qui a fait plus de 70 morts hier. Plusieurs militaires burkinabés condamnés à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison pour avoir tenté de libérer Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Donald Trump arrivé à Washington à la veille de son investiture comme 45e président des États-Unis. Ne ratez pas votre rendez-vous quotidien sur la CAN dans 10 minutes, mais tout d'abord, le journal. Adama Barrow lance un message d'unité lors de son discours d'investiture qui s'est déroulé tout à l'heure à l'ambassade de la Gambie à Dakar devant un parterre d'invités dont plusieurs diplomates. « Je suis votre président », a-t-il dit aux Gambiens. On écoute un extrait de sa cérémonie de prestation de serment.
« I humbly stand before you to address the whole world on this historic occasion. This is a day no Gambian will ever forget. » In one's lifetime.
Voilà. C'était donc Adama Barrow un peu plus tôt à Dakar. Adama Barrow qui a donc prêté serment en tant que successeur de Yahya Jammeh qui lui refuse toujours de quitter le pouvoir malgré la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO. On retrouve à Dakar Seydina Abagay.
Le président Adama Barrow est arrivé aux alentours de 17h et il a prêté serment sur le Saint-Coran en garantissant l'unité et qu'il serait le président de tous les Gambiens. Il a prêté serment devant le corps diplomatique accrédité à Dakar, notamment l'ambassade des États-Unis et celui de la France. Le Sénégal était représenté à cette cérémonie par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Diagne. Il y avait aussi la représentante des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, mais aussi le président du Parlement de la CEDEAO. Ce qu'il faut retenir de cette prestation de serment, c'est l'appel qu'Adama Barrow a lancé à Yahya Jammeh en vue de consolider la démocratie en Gambie, parce que le nouveau président gambien a souligné que c'était la première fois de l'histoire qu'une passation démocratique de pouvoir pouvait avoir lieu en Gambie, car c'est la première fois qu'un président en exercice était battu aux élections. Il a aussi appelé l'armée régulière à être loyale avec le président élu, et aussi les Gambiens à être soudé, car il dit qu'il sera le président, pas de ceux qui ont voté pour lui, mais de toute la population gambienne.
Seydina Abagay, notre correspondant à Dakar, alors que des troupes de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se préparent à une éventuelle intervention sur le sol gambien, le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'adopter à l'unanimité une résolution pour soutenir ces troupes de la CEDEAO. Les derniers détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité cet après-midi le projet de résolution présenté par le Sénégal pour soutenir une éventuelle intervention militaire des pays de la CEDEAO. Les Nations Unies appellent Yahya Jammeh à mener un processus de transition pacifique et à transmettre le pouvoir au président élu Barrow. Une source militaire sénégalaise a confirmé que des soldats du Sénégal et du Nigeria sont en alerte et prêts à intervenir. Le Ghana a de son côté donné son accord pour déployer 205 militaires si besoin était. Le calme règne à Banjul où de nombreux militaires patrouillent. Tard hier soir, le chef de l'armée gambienne a déclaré qu'il n'ordonnerait pas à ses hommes de résister en cas d'intervention des troupes ouest-africaines. Le général Ousmane Badji a précisé qu'il s'agissait d'une dispute politique et qu'il n'allait pas impliquer ses soldats dans un combat qu'il a qualifié de stupide.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé à Gao en fin de matinée au lendemain de l'attentat qui a fait plus de 70 morts dans un camp de cantonnement d'ex-combattants. Le pays observe 3 jours de deuil national. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Le président de la République et sa délégation ont tout d'abord fait un tour au lieu du drame, puis la délégation s'est rendue à l'hôpital où sont couchés les nombreux blessés de l'attaque perpétrée contre le camp du Mok hier dans la matinée. Ensuite, le président de la République a rencontré les responsables administratifs de la région et la notabilité. Là, le président de la République a dit ceci.
Nous sommes venus pour témoigner à cette ville martyre de Gao, à notre vaillant peuple de Gao, notre jeunesse malienne de Gao, toute notre sympathie. Elle a été atteinte, cette jeunesse, lâchement, atrocement. Le mouvement qui a osé revendiquer avec panache ce crime, il le paiera. Il le paiera. Al-Mourabitoum paiera cela. Il ne sera pas dit que ces jeunes gens auront été massacrés en vain.
Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le verdict dans l'affaire de la tentative de libération de Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé est tombé. 20 des 29 accusés ont été déclarés coupables. Le cerveau du groupe, le caporal Madi Ouedraogo, a écopé de la plus lourde peine, 15 ans de prison. Correspondance à Ouagadougou de Zoumana Ouanogo.
Commencé en décembre de l'année passée, le procès de l'affaire caporal Madi Ouedraogo et 28 autres personnes accusées d'avoir tenté d'attaquer la prison militaire pour libérer les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé a donné son verdict ce mercredi 18 janvier. Le tribunal a retenu que 20 des 29 accusés sont coupables. Ainsi, le cerveau du groupe, le caporal Madi Ouedraogo, le sergent Mahamadi Zale et un civil, Cheikh Alassane Ouedraogo Dilaji, ont écopé de la plus lourde peine, 15 ans de prison ferme. 15 autres accusés ont été condamnés à 10 ans de prison et 2 ont pris 6 mois ferme. Ce procès, que l'on a qualifié de procès des seconds couteaux, n'a pas manqué de rebondissements, avec des révélations impliquant le général Yacouba Isaac Zida, Premier ministre sous la transition burkinabé. Zoumana Ouanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le gouvernement ougandais admet avoir perdu la trace de 40 rebelles congolais qui ont déserté une base militaire ougandaise dans laquelle ils étaient cantonnés depuis 2014. Une centaine d'autres ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de rejoindre la République démocratique du Congo. Plus tôt cette semaine, l'Ouganda avait pourtant nié que des ex-rebelles du M23 s'étaient échappés de la base de Bianga. Le Parlement européen demande aux autorités burundaises de désarmer les Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, accusée d'exaction. Les députés européens se sont aussi inquiétés de l'aggravation des violences, tortures et viols collectifs commis dans ce pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hors du continent, ici aux États-Unis, Donald Trump passe ce jeudi sa dernière journée de simple citoyen avant sa prestation de serment demain. Il arrive cet après-midi à Washington. Je n'ai aucun doute qu'ensemble nous rendrons à l'Amérique sa grandeur, a-t-il lancé sur Twitter. Il deviendra le 45e président des États-Unis. Nous reviendrons sur la cérémonie de prestation de serment de demain dans notre partie magazine. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, assistera finalement au pourparlers de paix la semaine prochaine à Astana, organisé sous l'égide de la Russie, de l'Iran et de la Turquie. Ces pourparlers réuniront pour la première fois autour d'une même table rebelles et représentants du président Bachar el-Assad depuis le début de la guerre il y a près de 6 ans. En Allemagne, le parquet a requis une peine de 6 ans de détention contre une adolescente germano-marocaine pour avoir grièvement blessé un policier au couteau l'an dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Bonsoir à tous, place au match du groupe B ce jeudi à Franceville. Dans le duel maghrébin, la Tunisie a battu l'Algérie 2-1. À 19h, le leader de cette poule, le Sénégal, fait face à un match piège face au Zimbabwe. Le Zimbabwe qui avait chahuté l'Algérie au tour précédent. On retrouve sur place Amdine Si pour VOA Afrique.
Bonsoir Bagatikoura et bienvenue au stade de la rénovation de Franceville. chercher Bagassi Koura que la Tunisie a fait chuter l'Algérie. En effet, les aigles de Carthage sont imposés face au Sénégal d'Algérie sur le score de 2-1 dans le cadre de la deuxième journée de la poule B. Les points d'Henri Castelzar sont profités de la fébrilité de la défense algérienne pour couvrir le score à la 55e minute par l'intermédiaire de Youssef. Ils vont même doubler la mise à la 69e minute sur un penalty suite à une faute de la défense algérienne sur Kadri. Menés au score, les Algériens vont jeter le voile pour revenir au score. Ils vont réduire même le score à la 90e minute par Soufiane Anne avec cette victoire. La Tunisie qui avait concédé une défaite face au Sénégal, alors que l'Algérie, qui ne compte qu'un point, est en grand danger. Dans quelques minutes, nous allons assister à la seconde rencontre qui va opposer le Sénégal au Zimbabwe. C'était Amédi Thiam en direct depuis le stade de la rénovation de Franceville pour VOAfrique.
Le groupe C demain reprend ses droits à OIM. RDC et Côte d'Ivoire, rencontre très attendue. Les deux entraîneurs espèrent la victoire au bout. Les détails sur place à OIM avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre partenaire.
Nous allons aborder le match de ce vendredi avec la ferme détermination de garder la tête du groupe, a dit en conférence de presse Florent Ibengué. Le sélectionneur principal des Léopards de la RDC promet également que son équipe va jouer face à la Côte d'Ivoire différemment du Maroc.
Et garder la même philosophie, quel que soit l'adversaire. Maintenant, tactiquement, on ne va pas jouer de la même façon qu'on a joué contre le Maroc.
Du changement attendu également chez les éléphants, annonce Michel Dussuyer, qui parle de la RDC comme un adversaire compétitif, agressif et très généreux.
Il y aura des changements, changements d'attitude, parce que ce premier match, on n'a pas mis tous les ingrédients qu'il fallait dans un match de Coupe d'Afrique.
OIM, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et puis le second match oppose demain à 19h le Maroc au Togo après la défaite en première journée face à la RDC. Soirée riche en émotions dans le groupe A à Libreville, au stade de l'Amitié, les Lions Indomptables sont passés proches de la sortie avant de se reprendre face à une étonnante équipe bissau-guinéenne. Victoire 2-1 qui a inspiré Jules Valentin Ngoué pour son coup de sifflet.
La débauche d'énergie constatée dans la poule A lors de la deuxième journée démontre, s'il le fallait, la volonté des protagonistes de décanter la situation et se positionner favorablement avant les matchs décisifs de dimanche. Face à un Burkina Faso que la qualité de l'effectif pousse tout naturellement vers l'avant, le Gabon, libéré du carcan défensif de la première sortie, s'est mieux exprimé dans un match très engagé qui, sans être violent, a tout de même nécessité 6 remplacements pour blessures, la plupart dus à l'état de la pelouse. Le score de parité qui a sanctionné cette rencontre est équitable, mais n'arrange personne. En deuxième match, le Cameroun, trop prévisible, est bloqué tactiquement par une équipe de Guinée-Bissau, toujours aussi à l'aise dans son rôle d'outsider, n'a trouvé la solution qu'en seconde mi-temps, en ouvrant finalement les couloirs, d'où l'inversion victorieuse du score dans la dernière demi-heure de jeu. Le mental d'acier et l'efficacité dans des tirs pourtant plus lointains sont de retour. Les lignes ont donc bougé dans ce groupe A où tout reste possible. Il faut s'attendre que le même engagement et la même incertitude qui ont caractérisé ces deux rencontres se retrouvent ce soir lors des matchs tout aussi prometteurs de la poule B. À demain.
Avec cette victoire, le Cameroun prend la tête du groupe A avec 4 points devant le Gabon et le Burkina Faso qui ont fait encore un match nul hier soir à Libreville, un but partout. Et le Burkina qui perd deux de ses attaquants, Jonathan Zongo et Jonathan Pitropa. Un coup dur selon notre confrère Antoine Bacciono.
C'est un coup dur quand vous entendez le nom de Jonathan Pitropa, mais joueur de la CAN 2013, même s'il est en baisse de forme. C'est un joueur qui compte beaucoup dans les dispositifs tactiques des étalons. Il est vif, il peut à tout moment de la rencontre réaliser quelque chose. Malheureusement, il sera absent pour un match très important contre la Guinée-Bissau. C'est une déchirure musculaire, donc il est au repos carrément. Il fait au moins 3 semaines sans jouer. C'est difficile. Et pour Jonathan Zongo, c'est toute rupture des ligaments.
Antoine Bacciono, journaliste du quotidien Le Pays, a été joint à Libreville au Gabon. C'est la fin de ce journal de la CAN. Nouveau rendez-vous demain matin sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et on fait le point sur l'actualité économique du continent. C'est la Minute Éco présentée par Eric Manirakiza.
L'Afrique a attiré plus de touristes en 2016 contre toute attente. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre a augmenté de 8,1%, mais en 2015, il y a eu une baisse de 2,5% par rapport à 2014. Le Maroc reste la première attraction touristique du continent. Coup d'envoi de la construction d'une zone de libre-échange à Djibouti sur 48 km², la plus grande d'Afrique. Cet investissement chinois devrait rapporter 7 milliards de dollars dans 2 ans et 15 000 emplois directs et indirects vont être créés dans le pays. Au cœur du golfe d'Aden et de la mer Rouge, entre l'Érythrée et la Somalie, Djibouti vise aussi à devenir la porte d'entrée vers l'Éthiopie, le Soudan du Sud et la région des Grands Lacs. Pour s'assurer de la pertinence et l'efficacité des dépenses publiques, le Cameroun met en place un manuel unique de procédure de contrôle des investissements publics. Cette année, la part allouée à l'investissement se chiffre à 1 586,9 milliards de francs CFA et représente 36,7% du budget global de l'État.
Vous écoutez la VOA Afrique, la partie magazine à présent, Abdourahmane Dia au micro et on démarre tout de suite. Les 12 mois de salaire des militaires burundais de la MISOM seront bientôt payés selon l'Union africaine. Le commissaire paix et sécurité de l'UEA, l'Algérien Ismaël Chergui, vient de passer 2 jours à Bujumbura où il a rencontré le président Pierre Nkurunziza. Le gouvernement burundais a affirmé cette semaine avoir entamé la procédure de retrait des troupes burundaises déployées en Somalie dans le cadre de la force de l'Union africaine. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Dans une conférence de presse à l'aéroport international de Bujumbura, le commissaire de l'Union africaine a affirmé que prochainement, les soldats militaires burundais combattant les terroristes El-Shabaab en Somalie seront payés dans un mémorandum d'entente signé entre le gouvernement burundais et l'Union africaine. L'ambassadeur Ismaël Chergui indique qu'un terrain d'entente a été trouvé.
Les retards enregistrés dans le paiement de ces salaires ne touchent pas que le Burundi. Je suis heureux de vous dire que nous avons réglé cette question aujourd'hui ici et également le Burundi a signé avec moi aujourd'hui le mémorandum qui permet à l'Union africaine de transférer ces salaires au bénéfice de la défense nationale ici et de nos soldats. C'est un bon développement. Cela permettra à ces forces de continuer à travailler dans la sérénité.
À sa descente d'avion, le commissaire de l'Union africaine s'est rendu mercredi au cimetière de Mwanda où sont enterrés les militaires burundais qui sont tombés sur le champ de bataille en Somalie. Ismaël Chergui a déposé des gerbes de fleurs sur la tombe du général Juvenal Niyoyunguruza tué en 2009 alors qu'il était le commandant second de la MISOM. Pourquoi s'être rendu d'abord au cimetière de Mwanda, le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, Ismaël Chergui?
Je crois que c'est un devoir élémentaire que de venir ici rendre hommage à nos soldats de la paix qui ont payé le prix le plus élevé pour donner la possibilité à leurs sœurs et frères somaliens de retrouver la quiétude, la paix, la sécurité. Je pense que c'est le minimum et nous continuerons à fleurir leur mémoire et à nous rappeler de ce geste suprême qu'ils ont fait.
Cette visite du patron de la paix et de la sécurité à l'Union africaine intervient au moment où les autorités burundaises ont déjà amorcé le processus de retrait des plus de 5000 militaires burundais qui combattent El-Shabaab en Somalie. Le ministre des Relations extérieures, Alain Aimé Nyamitwe, a indiqué que même si les militaires burundais rentraient ou pas au bercail, leur courage et abnégation sera toujours reconnu par toute la communauté internationale. national.
Ils l'ont fait en Centrafrique. C'est un témoignage bien dû, encore une fois. Nous leur souhaitons très bon repos. Et au pays qui les a envoyés, nous les renouvelons nos remerciements et notre reconnaissance.
L'argent des militaires burundais qui peut arriver d'un moment à l'autre va-t-il transiter par leur compte comme le veut l'Union européenne après les sanctions prises à l'encontre du Burundi depuis plus d'une année? Difficile de trouver une réponse pour le moment car l'Union européenne n'a pas voulu s'exprimer avant de voir le mémorandum d'entente. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En République du Congo, les 11 établissements de l'université Marie Ngouabi ont entièrement repris les cours après des perturbations de l'an dernier. Les autorités se félicitent d'avoir mis en place un mécanisme de dialogue avec les enseignants et les étudiants pour éviter des grèves. Le reportage de Nguela Ngoussou, notre correspondant à Brazzaville.
Après une fin d'année académique très agitée par les grèves et les violences, la bourse d'étudiants a été payée en fin 2016 et les revendications des enseignants satisfaites. Les cours ont repris, témoignent ces étudiants de la faculté des lettres à Bayamba.
On parle maintenant des devoirs, valider les semestres ou comment. On ne parle plus de la grève.
Oui, ça nous gêne parce que ça perturbe nos cours. On n'acquiert pas la connaissance normalement. Du coup, ça nous déçoit.
Sinon que le cycle licence a bel et bien repris les cours. Mais les cycles master sont en phase de préinscription.
Gracia Lindanga, un responsable du mouvement des étudiants, révèle cependant quelques difficultés.
Nous, avant la campagne des dépôts des dossiers de la bourse, il faut que les étudiants aient tous leurs résultats définitifs.
Le non-paiement de la bourse est la principale cause des mouvements de protestation à l'université Marie Ngouabi. Cette année, le gouvernement a prévu 37 milliards de francs CFA pour les bourses, insuffisant pour les quelques 55 000 étudiants. Grégoire Osebi, le directeur général des bourses, appelle les étudiants à la compréhension.
À l'université Marie Ngouabi, on a payé 3 trimestres. Bon, il faut comprendre cela, dû aux difficultés. Nous tous, nous avons le devoir de dire à ces étudiants, puisque ce sont tous nos enfants, nous devons leur dire, oui, attendez, la bourse sera payée.
Le ministre de l'enseignement supérieur, lui, se félicite. Bruno Jean-Ritoire Itois.
Petit à petit, nous avons commencé à résorber le gap en ce qui concerne l'essentiel des revendications des enseignants. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de grève depuis plus de 3 mois, il faut le dire aussi. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'intersyndicale dans un climat de compréhension mutuelle. Nous allons nous mobiliser tous pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de raison que ces grèves aient de nouveau lieu en 2017. Nous travaillons dans un climat de grande compréhension avec les syndicats des étudiants. Là aussi, nous allons nous mobiliser, je l'ai dit, pour que la bourse puisse être autant que possible mise à leur disposition en temps et en heure, et je crois que c'est possible.
Unique université publique du pays, Marie Ngouabi est confrontée à de nombreuses difficultés, dont le très faible volume horaire des enseignements. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Cela fait 2 mois déjà que plusieurs organes de presse ont été fermés au Bénin par Adam Boni Tessi, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, instance locale de régulation des médias. Depuis, les employés sont en chômage technique sans savoir s'ils pourront un jour retrouver leur poste respectif. Plus de précisions avec Ginette Fleur Adandé à Cotonou.
Le feuilleton lié à la fermeture de près d'une douzaine d'organes de presse n'est pas prêt de connaître un quelconque dénouement. Pendant que les employés de ces organes attendent de retrouver leur job, les associations fêtières et la HAC se livrent à une guerre sourde qui embrouille quelque peu. Déjà 2 sit-ins pour lesquels les manifestants ont été interdits, en tout cas devant le siège de l'instance de régulation. Celui de ce mercredi a eu lieu à la Bourse du Travail où certains syndicalistes ont appelé les professionnels des médias à opter pour des journées presse.
Il faut une journée presse morte. Il faut passer à une autre phase.
Donc cette lutte doit être menée par nous tous ici présents. Ce sont des entreprises de presse qui ont été fermées.
Dans le rang des professionnels des médias, la division est palpable. Pour plus d'une centaine d'organes de presse existants, seulement 20 d'hommes et de femmes ont répondu à l'appel des associations fêtières. Pour certains comme Josué, journaliste au quotidien de presse publique, trop d'amalgame dans ce dossier.
On ne comprend pas comment dans
dans une situation comme celle-là, la fatigue des journalistes se met beaucoup plus en ébullition, se met beaucoup plus en évidence, se met beaucoup plus au devant de la scène, alors que le Conseil national du patronat de presse et de l'audiovisuel du Bénin, qui devrait être la première structure au devant de la scène, préfère rester un peu dans un attentisme.
Pour d'autres encore, les associations n'ont plus aucune crédibilité.
Elles ont raté le coche. Il y a eu plusieurs occasions où elles devraient donner la voix. Elles ne l'ont pas fait et elles en payent le prix aujourd'hui.
Mais qu'en est-il de la journée presse morte qui pourra être organisée dans les prochains jours? Là encore, les avis sont partagés.
Journée presse morte, c'est encore peu dire. Il faudrait y aller avec beaucoup plus de force. C'est-à-dire que même si on peut aller à une semaine ou deux semaines ou un mois, ce serait très bien.
On est en face d'une vraie menace d'embrigadement de liberté de presse et donc il faut maintenant agir pour ceux qui sont en danger aujourd'hui parce qu'on ne sait pas qui sera dans le pétrin de la hache demain.
C'est d'abord priver la population de l'information. Moi, ce que je propose, c'est qu'on trouve un terrain d'entente entre l'institution qu'est la hache et les structures fêtières de la presse.
Il y a quelques années encore, un quotidien béninois a été fermé par l'instance de régulation et n'a plus jamais été autorisé à ouvrir ses portes. Les responsables des médias fermés actuellement vivent dans la hantise d'un tel cauchemar et font feu de tout bois pour l'éviter. De Cotonou, Chinette Fleur a donné pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Donald Trump sera investi 45e président des États-Unis demain, vendredi. L'homme d'affaires prêtera serment sur les marches du Capitole, une cérémonie que suivront à la télévision des millions de personnes à travers le monde. Les investitures présidentielles aux États-Unis sont le symbole historique du transfert pacifique du pouvoir et reflètent souvent des changements politiques. Jacques Aristide.
C'est un rituel de la démocratie américaine aussi vieux que la République. L'événement marque la fin d'une ère et le début d'une autre, bonne ou mauvaise. En 1933, Franklin Roosevelt prête serment durant la Grande Dépression.
Tout d'abord, permettez-moi d'affirmer ma ferme conviction que la seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même.
En 1961, John Kennedy inspire une nouvelle génération d'Américains avec cet appel.
Compatriotes américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays.
20 ans plus tard, le républicain Ronald Reagan arrive au pouvoir, promettant de réduire la taille du gouvernement.
Face à la crise actuelle, le gouvernement n'est pas la solution à notre problème. Le gouvernement est le problème.
Après sa victoire en novembre, le président élu Donald Trump a fait une tournée dans certains États et a promis de tenir à ses promesses de campagne.
C'est vraiment un tournant que nous vivons. L'histoire n'est pas encore écrite. Nous ne savons pas ce qui sera écrit sur la page demain, mais pour la première fois depuis longtemps, nous savons que les pages seront rédigées par chacun d'entre vous. C'est un mouvement.
Le pays reste divisé après la victoire de Trump. L'un des défis que doit relever le nouveau président sera de forger l'unité, selon le politologue John Forty.
C'est une occasion très importante. La première étape pour vraiment s'adresser au pays en tant que président, pour peut-être dire qu'il faut laisser derrière nous certains différends.
Historiquement, l'investiture présidentielle permet d'oublier la férocité des campagnes électorales dans un esprit de continuité et de démocratie, d'après John Hudak de la Brookings Institution.
Le président Obama voyagera dans une voiture avec le président élu Donald Trump de la Maison Blanche au Capitole et il va pacifiquement transférer le pouvoir et regarder son successeur prêter serment, pas celui qu'il voulait, mais son successeur néanmoins. Cela ne se produit pas partout dans le monde. C'est un événement important dans ce pays.
Trump est connu pour ses improvisations lors de ses rassemblements, mais qu'en est-il de son discours d'investiture? Norm Ornstein,
Levine de l'American Enterprise Institute.
Un discours d'investiture est généralement élaboré et créé à l'avance, et le président le lit. Donald Trump fera-t-il sans un script et ne comptera-t-il que sur lui-même? C'est dans le domaine de l'inconnu.
Donald Trump est donc sur le point de devenir le 45e président et le ton qu'il donnera au début de son mandat sera probablement une indication du type de leader qu'il aspire à devenir.
Merci Jacques. Et tout de suite, cette information qui vient de nous parvenir. Le porte-parole de l'armée sénégalaise vient de confirmer que les troupes sénégalaises sont entrées en Gambie. Plus de détails dans notre édition de 19h30 GMT présentée par Gaby Dorsil. Moi, c'est Abdourahmane Dia, mise en onde de cette édition, Lionel Gaïma. Au revoir.